commencé, si je peux encore me souvenir bien, c'était début du mois mars. Et si j'ai bien suivi ce qui était à la base de ces réunions, c'était les malentendus, c'était les interprétations qui étaient faites autour de certains thèmes bibliques, prêchés du haut de la chair ou crus simplement par des lectures personnelles. Ça avait commencé par cette assemblée de l'EPN, où certains de nos frères de l'assemblée des 18e rue étaient venus, et des discussions qui avaient suivi, on est parvenu à conclure qu'il fallait des rencontres de ce genre, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est même biblique que lorsqu'on parcourt l'histoire de l'Église primitive, on trouve que les hommes qui ont cru, qui ont commencé à servir ensemble, devraient se rencontrer, non seulement comme une norme des hommes, mais un désir que l'Esprit de Dieu fait sentir, parce que il faudrait que, tout en prétendant être au service du Seigneur, qu'on sache ce que les autres s'y font. Nous en avons des exemples dans la Bible. Il y a eu une première rencontre qui s'était passée à Jérusalem. C'était suite à des interprétations, à des déviations doctrinaires. Et c'est ainsi qu'on a eu une rencontre à Jérusalem. Et les hommes de Dieu ont partagé avec sincérité et avec foi ce qu'ils avaient. Et ils sont parvenus à des conclusions que nous trouvons consignées dans la Bible, comme des recommandations de l'Esprit et des croyants. Je pense que nous lisons dans Actes chapitre 15. La lettre qui était écrite, adressée aux croyants, dit au verset 28, « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche. » Choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Ça, c'est la conclusion de cette réunion que nous pouvons considérer comme une réunion, discussion de mise au point sur les déviations qui étaient intervenues. Ensuite, les chrétiens ont commencé à œuvrer. Et à plusieurs endroits et de plusieurs manières, l'apôtre Paul a dû rappeler les chrétiens à l'ordre. L'évangile que nous avons, c'est l'évangile qui ne se base pas sur les erreurs. Et nous ne voulons pas bâtir sur les erreurs. Nous voulons marcher dans la vérité. Et il faudrait aussi que cette vérité, nous la croyions. Mais il semble que ce n'est pas toujours évident. Ça, c'est l'idéal. Nous sommes des hommes. Nous passons. Nous avons parfois des connaissances divergentes, ce qui est tout à fait normal, parce que nous avons des dons de Dieu qui diffèrent d'un individu à l'autre. Mais ces dons de Dieu sont complémentaires. Ceux qui sont dans le ministère, d'après Éphésiens chapitre 4, verset 7, on commence par 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Nous savons que lorsqu'on parle des dons ici, en fait, il est question des hommes. Les dons dans l'Église, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des choses qui sont suspendues, comme beaucoup le pensent, mais sont des hommes au moyen desquels les dons se manifestent. Et si les dons ont été accordés à l'Église, c'est en vue de l'œuvre du Seigneur pour l'édification des hommes qui écoutent et qui peuvent se sentir édifiés, c'est-à-dire qu'il y a une croissance, parce que nous croyons, nous sommes des enfants dès que nous recevons la parole, mais au fur et à mesure que les années passent, nous grandissons. Cela ne doit pas simplement être le fait de compter le nombre d'années qu'on a passées, mais c'est aussi par ce que nous pouvons remarquer dans notre façon de comprendre et d'appréhender les choses de Dieu. Alors, les hommes qui ont servi ensemble devraient se connaître et ils devraient savoir rendre témoignage des uns et des autres. Cela est tout à fait évident. C'est ainsi que nous trouvons Pierre qui va dire que Paul a une sagesse et que par ses écrits ou par son parler, certains hommes tordent l'essence de ce que Paul disait. C'est-à-dire que Pierre connaissait véritablement la profondeur de Paul. Et nous aussi, nous devons être à même ou capables de savoir que tel frère croit et connaît de telle manière. Et que lorsqu'il vient et qu'il partage la parole du Seigneur, nous savons ce qu'il croit. Nous n'aurons pas à nous tirailler sur peut-être d'autres exemples qui peuvent sortir ou certains langages qui ne seraient pas habituels. C'est d'ailleurs pour cela que Frère Branham disait il ne faut pas suivre ce qu'il a dit, mais il faut vraiment écouter ce qu'il a voulu dire. Et si nous nous connaissons de cette manière, nous parviendrons à servir mieux et de façon complémentaire. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons des divergences qui ne sont peut-être pas apparentes, mais qui sont latentes et dangereuses. C'est-à-dire que si on ne peut pas expliciter la pensée qu'on a, essayer même de la sortir pour être aidé, on risque de faire des gaffes dans l'œuvre du Seigneur. Je suis revenu là-dessus parce que depuis que les réunions ont commencé, il y a déjà des réactions. Une réaction qui est venue de mon assemblée, d'un membre de mon assemblée, mais qui n'est pas une réaction favorable. D'abord, une interprétation fausse de ce qui s'est fait. Cela nous instruit parce qu'on ne peut pas dire, on peut dire c'est un homme, ça peut passer, mais ce sont des esprits. Oui. La parole de Dieu dit que les esprits ne meurent pas. Et lorsqu'il y a un esprit qui commence, ça n'atteint pas un seul individu, ça va se partager et ça peut devenir finalement une doctrine ou même une position à prendre. Donc il est question que nous puissions, à partir des exposés qui se font, nous puissions savoir quelle est la mesure des dons de grâce que nous avons et comment est-ce que nous pouvons essayer de nous situer par rapport à ce qui est dit ou même essayer de réagir. J'estime que nous avons la liberté en Christ d'agir ou de réagir pendant que nous avons des exposés. Je sais que les séances ont été prévues de telle manière que il y a une liberté, parfois on ne sait pas à quel moment prendre cette liberté Là, peut-être les organisateurs pourront encore examiner. Mais à mon sens, il faudrait qu'avant les exposés du jour, qu'on essaye d'intervenir, laisser même quelques minutes pour savoir qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qu'on peut peut-être ajouter, qu'est-ce qu'on a mal compris. Et ainsi, on ne saura pas sortir avec des idées vagues. Parce que les réunions que nous avons, c'est tout à fait différent des cultes que nous avons. Ce sont des réunions de serviteurs, c'est-à-dire que les exposés se font, on peut les discuter comme l'école de dimanche, c'est ce que je comprends. Mais ça avait pris l'allure de exposer et on part avec des idées parfois préconçues, comme je viens de déplorer, et on va parler à côté, à des milliers de kilomètres, au lieu de parler parmi les frères pour peut-être apporter des corrections ou de points de vue qu'on voudrait donner. Ainsi, mon intervention tient à ce que chacun de nous se sente dans cette liberté de l'Esprit de Dieu et d'exposer clairement ce qu'il pense ou de contredire, pourquoi pas, s'il y a des choses à contredire. Mais je sais que nous n'avons pas comme motif de nous contredire, nous avons à nous compléter parce que nous visons à partager et à mettre au service des autres les dons que le Seigneur a mis en nous. Et j'ai tenu à dire ces mots pour que nous ne puissions pas avancer continuellement et avoir à refaire. Nous savons que plusieurs fois dans cette ville, des réunions se sont tenues, parfois des réunions convoquées pour les assemblées. Il y a une différence entre ce genre de réunions passées et les réunions actuelles. Les réunions actuelles ne visent pas les assemblées, mais ça vise les serviteurs qui se sentent concernés par le partage d'expériences, le partage de ce que le Seigneur a mis dans chacun de nous, et quitte à ce que chacun puisse tirer profit de ce qu'il entend. Donc c'est librement qu'on vient, et c'est aussi avec la conviction sincère qu'on vient ici. Mais il semble que les choses ne sont pas comprises de cette manière. À partir de cette expérience que j'ai vécue, j'ai voulu que cela soit porté à la connaissance de tous et que nous puissions vraiment prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter de sombrer dans les erreurs ou dans une sorte d'optimisme, croyant que ça avance bien alors qu'il y en a toujours qui ne sont pas tous d'accord. Voilà ce que j'avais à dire. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas vraiment bienvenu, mais j'ai senti qu'il fallait que je le dise, que le Seigneur me dise.
Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Si vous avez bien compris, dans ces réunions, ce sont des réunions principalement d'édification. Nous voulons être tous fondés sur la parole de Dieu dans tout son sens, dans toute sa lumière, sur tous les sujets. Peut-être qu'il y a des corrections, peut-être que pour chacun de nous, nous ressentons une orientation toute nouvelle dans le service du Seigneur et avec lui. Il est important que, à ce point-là, chacun, selon ce que j'ai pu saisir, que chacun puisse faire le point et voir comment il avance, comment il marche. Il peut même demander, frère, mais sur ce point, moi j'ai toujours peut-être vu comme ça, mais il semble que c'est un peu différent. C'est pour l'édification. On ne peut pas aller sortir de ces réunions avec des idées parallèles. Vous ailleurs, on parle de convergence parallèle, c'est-à-dire il y a des choses qui ne se toucheront jamais, mais ça va comme ça. Mais nous voulons être fondés sur la pensée du Seigneur. Mais le Seigneur fait grâce à chacun. Puissions-nous arriver par la grâce de Dieu à dire comme Paul, nous avons la pensée de Christ. Voilà ce que nous désirons. Sur tout point, sur quoi que ce soit, le plan de Dieu, sur chaque sujet, qu'on en arrive là. Mais s'il y a quelqu'un qui voit un peu différemment, il peut dire, moi, mais ça, vraiment, frère, est toujours dans l'esprit d'édification, pas de contradiction, pas de destruction, mais pour avancer dans ce que Dieu est en train de faire. L'heure est très tard, frère. Très tard que nous le pensons. Mais que Dieu nous aide tous. Amen. Qu'il nous aide tous. Nous allons aller directement dans l'exposé. Nous ne saurons pas tout expliquer ou tout dire clairement. Mais nous savons comment nous avons parlé la fois passée sur la grâce et non la disgrâce, avec le salut par le sang, opposé à la religion. C'était notre sujet de la fois passée. Je crois qu'on va recommencer par là, pour déboucher sur la restauration, principalement le sujet de notre temps, la restauration, la pluie de l'arrière-saison et tout ce qui est lié là, troisième poule et tout, sont des sujets très importants. Mais nous commençons par la grâce et non la disgrâce, achever la pensée qui avait été commencée, le salut par le sang opposé à la religion. Et avec le temps qui restera, on entrera dans le sujet de la restauration, la pluie de l'arrière-saison, troisième poule, ainsi de suite. Amen.
Un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Il n'y a pas plusieurs fois. Il y a une seule foi, et c'est cette foi que bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes. La seule foi qu'il y a, c'est celle qui a été transmise au saints une fois pour toutes. Quand Paul, Jude a écrit, il dit, c'est parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en des règlements et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous revenons dans Éphésiens, il nous est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi. C'est la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Paul Pierre dit, lui, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1er, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Or, cette foi, Romains 10, Paul est très clair, nous allons bien comprendre pourquoi nous sommes partis de là. Romains 10, au verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix singulière, une seule, leur voix, la même, est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc, c'est en entendant la parole de Christ qui se fait entendre par la voix dont il est question au verset 18, c'est là que nous pouvons avoir la foi. Et maintenant, Paul dit une chose très importante. Nous sommes dans le livre de Paul, excusez-moi, nous sommes dans le livre de Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Verset 2. 1 Thessaloniciens 2. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude.
Amen.
Voilà comment Paul parle de l'évangile qu'il a annoncé. Il dit, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Donc la prédication d'un véritable homme envoyé de Dieu ne repose pas sur des motifs impurs, ne repose pas sur l'erreur, ni sur la fraude. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, il dit au verset 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. » Ainsi, lorsque nous nous retrouvons pour sonder les Écritures, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17, je m'excuse, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, Paul était certain qu'il ne falsifiait pas la parole de Dieu. Paul était certain que sa prédication ne reposait pas sur l'erreur, ni sur un motif impur, ni sur la fraude. C'est ainsi que chacun de nous devrait se trouver exactement dans la même position que Paul, parlant de la part de Dieu, mais pas n'importe où, mais en Christ et devant Dieu. Et Pierre de dire dans 1 Pierre au chapitre 1er, verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Donc ceux qui prêchent maintenant le Saint-Évangile doivent le prêcher par le Saint-Esprit envoyé du ciel. C'est alors que nous sommes certains que la parole que nous apportons n'a pas été falsifiée, elle ne repose pas sur l'erreur ni sur des motifs impurs. À ce moment-là, nous pouvons dire aux croyants, 1 Thessaloniciens 2, verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, c'est-à-dire comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Dans Éphésiens, il fut aussi écrit, verset 7, Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Nous avions vu autrefois que même si nous avons reçu, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles lettres il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens de ce qui est dit dans les lettres, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Mais comment ces personnes peuvent-elles être affirmées? Il n'y a qu'un seul moyen. Je crois que c'est dans Romains chapitre 16, vous avez lu ça une fois. Romains 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, apporté conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Voilà comment quelqu'un peut être affirmé, pour qu'il ne puisse pas tordre le sens des Écritures de Paul, parce qu'il y a des choses difficiles, ni tordre le sens des autres Écritures, parce que Paul est clair, ma prédication ne repose pas sur un motif impur, ni sur l'erreur. Pourquoi principalement l'Évangile que Paul a apporté, qui est l'Évangile de Jésus-Christ, qui est l'Évangile de Dieu, lisons dans Timothée. Dans Timothée, Paul dit, 2 Timothée 1, 11. Commençons au verset 8, afin que tout soit bien clair. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et par l'Évangile, Christ a mis en évidence prophète et docteur chargé d'instruire les païens. Paul savait qu'il avait été établi prophète, apôtre et docteur chargé d'instruire les païens. C'est ainsi que lorsqu'ils se sont retrouvés dans Actes, au chapitre 15, regardez, au verset 1er, ils avaient un problème sur l'écriture. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous êtes circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Regardez la position de ces hommes. Ils ont eu une vive discussion avec Paul et Barnabas. Alors que ces hommes dans Galates, au chapitre 2, l'écriture, est très clair, elle dit ceci. Nous sommes dans Galates 2, nous sommes au verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention, écoutez, de nous asservir. Toute parole interprétée a toujours pour intention d'asservir les disciples et faire d'eux des disciples d'assemblée, des disciples d'hommes, au lieu de faire d'eux des disciples de Jésus-Christ. Permettez que je saute un passage et que je vous montre Galates 4. C'est là où Paul dit, ces hommes veulent vous détacher de nous pour vous attacher à c'est un passage que vous connaissez tous. C'est Galates 4. Galates 4, verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Vous comprenez? Toute parole interprétée a derrière elle un mauvais esprit. Là pour but de détacher le peuple de Dieu, de son œuvre, pour que le peuple soit zélé pour des hommes. Et ensuite, comme nous l'avions lu, c'est pour, avec l'intention d'asservir. Galates 2, 5, nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous.
Amen.
Ces réunions sont faites pour que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi nous. Amen. Mais ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposaient rien. Au contraire. Voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre, pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ces saints hommes avaient reconnu que Dieu leur avait confié l'évangile pour les incirconcis et les avait établis apôtres des païens. Revenons dans Acte 15. Mais ceux-là eurent une vive discussion avec Paul et Barnabas. Ils n'avaient pas les yeux pour voir. Par conséquent, ils ont eu une discussion vive avec Paul et Barnabas. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'église et poursuivirent leur route à travers la Phénicie et ainsi de suite, arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Écoutez, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi. Il y eut tumulte. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Tant qu'il y a des hommes qui ne sont pas capables de voir comment Dieu agit, il y a toujours des discussions. Vous voyez? Un débat, une vive discussion, une grande discussion. Mais Pierre se leva et leur dit, « Homme, frère, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Toute parole d'interprétation, ce sont des hommes qui tentent Dieu. En voulant mettre sur le joug des disciples, sur les épaules, sur le cou des disciples, un joug qu'ils sont même pas capables même de porter. Mais c'est là par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que. Toute l'assemblée garda le silence. Parce qu'ils savaient comment Dieu utilisait Pierre. Mais Pierre, qui dit que Dieu m'a choisi moi premièrement pour apporter la parole aux païens, quand il entend Paul prêcher, Il tend la main à Paul, il dit, toi Dieu t'a établi apôtre des païens. Amen. Pourtant c'était lui qui avait ouvert la porte des païens. Parce qu'il s'agissait de l'œuvre de Dieu. Où Dieu doit nous donner des yeux pour voir et comprendre. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, chacun prit la parole. Il n'a pas pris la parole n'importe comment pour dire « moi je pense que, moi j'estime que et je trouve que » mais il a dit « homme frère, écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. » Ça, c'est ce que Simon avait dit. Mais avec cela, s'accordent les paroles des prophètes. Selon qu'il est écrit, il a montré ce que les paroles des prophètes disaient. Verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car, en ce qui concerne la loi, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux et d'envoyer avec, à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, homme, frère, considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères. Amen. Oui, il dit au verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, chose contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Vous voyez que quand on procède de la manière biblique, avant, il y a eu discussion. Discussion. Non. Mais quand les hommes, les bouches autorisées, ont parlé, elles se sont référées aux Saintes Écritures.
Amen.
La Bible dit qu'il y eut un grand silence. Mais aujourd'hui, l'Écriture nous dit dans Zacharie, au chapitre 2, verset 13, que toute chair fasse silence devant l'Éternel. Donc si on veut parler, que ce ne soit pas nous qui parlons, mais faisons parler la Bible. Sinon, faisons silence devant l'Éternel. Car il s'est réveillé de sa sainte demeure. Il veut faire une œuvre puissante. Il n'y a plus de place pour l'homme. Vous voyez qu'à ce moment-là, Pierre a parlé en montrant comment Dieu a fait, se reposant sur les Écritures. Paul a montré comment Dieu a fait, se reposant sur les Écritures. Et Jacques a parlé, se reposant aussi sur les Écritures. Maintenant, quand ils ont écrit la lettre des frères aux frères, dans Acte 15, verset 23, ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie. Salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Vous avez entendu? Vous devez faire attention qu'on n'ébranle pas vos âmes, qu'on ne vous trouble pas par des discours, car ils n'ont reçu aucun mandat divin. Parce que cela était venu vers vous comme ça, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de vive voix, quoi ? Les mêmes choses. Si nous procédons comme ça, on dira, et l'église était en paix dans tout Kinshasa. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est le passage qui est donné dans Actes. Comment? Oui, c'est Actes 9. Hein? Vous connaissez ce passage? Là où il est dit, et l'église était en paix dans toute la Samarie. C'est bien, comme ça on va tous lire. Mais Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, vous voyez, pas se détruisant, et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Il n'y a pas de place dans l'œuvre de Dieu pour l'amitié. Nous vivons dans des temps prophétiques. Pourquoi? Parce que des prophéties bibliques s'accomplissent. Alors nous devons employer des critères prophétiques. Parce que nous vivons dans un temps prophétique, nous devons employer des critères prophétiques. Michée 7,5, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. C'est mon frère, il y a longtemps que j'ai commencé avec lui. Il n'y a pas de place pour ça. Nous vivons dans un temps prophétique. Utilisons les critères prophétiques. Beaucoup d'endroits où les croyants se réunissent, ce n'est pas la parole véritable qui les unit, ce sont les amitiés, les relations. On a commencé ensemble et ceci et cela, et on n'est pas prêt à utiliser les critères prophétiques. S'il y a un frère qui n'accepte pas la correction de l'écriture, frère Bana nous a montré clairement, il dit, c'est un mauvais esprit. Tout homme de Dieu qui est dans le royaume de Dieu doit être prêt à accepter les corrections biblique qu'on lui donne. Si tu as prêché une erreur, on t'appelle, on te la montre, ne te trompe pas, ne refuse pas. Si tu refuses, il y a un mauvais esprit sur toi. Jérémie 9, verset 4. Commençons même au verset 1er. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerai jour et nuit. Quoi? Les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais. C'est ça que frère Branham avait voulu faire. Il disait dans la brèche, il voulait faire ça. Le Seigneur lui a dit, si tu le fais, tu vas devenir ivrogne, comme cet homme. Ta femme va t'abandonner, tes enfants vont t'abandonner. Quand il voyait comment c'était parmi les croyants. Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent quoi? Le mensonge. Ici, il ne s'agit pas simplement du mensonge parce qu'on a inventé une histoire, mais une parole interprétée est un mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, vous voyez? De puissants prédicateurs, mais ils ne le sont pas par la vérité. Car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Alors, que chacun se tienne en garde contre son ami. Et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir et ils s'étudient à faire le mal. C'est très important. Nous devons faire attention. je me sens conduit à continuer un peu dans cela. Parce que bon, le frère Nyang a commencé là-bas. Je vais donner deux petits mots là-dessus. On reviendra dessus plus tard. Parce que le frère a lu l'écriture d'Ezra. Et il dit, lisons attentivement Ezra chapitre 1er, verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. C'était pas Cyrus qui parlait. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Mais ce n'était pas à Cyrus de le faire. Écoutez, pour qui est le message? Qui d'entre vous est de son peuple? Le message n'était pas pour tous. Que son Dieu soit avec lui. Mais notre Dieu, nous le connaissons. Le Dieu que nous adorons, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Jean 12, 26, il dit, là où je suis, là est mon serviteur.
Amen.
Alors celui qui se tient aux côtés d'un serviteur appelé et mandaté par Dieu, mais se tient aux côtés du Seigneur lui-même. Donc que son Dieu soit avec lui. Ça c'est deux. Trois, qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et quatre, qu'il bâtisse la maison de l'Éternel. Il n'a pas dit d'aller bâtir nos maisons, nos assemblées. Non, qu'on aille bâtir la maison de l'Éternel. Es-tu de son peuple? Alors que ton Dieu soit avec toi, que tu montes en Juda pour bâtir la maison de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Ce n'est pas pour tout le monde. Je vais sauter directement. Je vais dans Néhémie et je vais faire marche arrière après. Allons dans Néhémie. Je me suis trompé de passage. Oui, c'est bien dans Néhémie, là où ces hommes étaient venus leur dire, venez, nous allons construire avec vous. C'est Néhémie au chapitre... Comment? C'est Ezra, hein? Oui, Ezra 4. Écoutez, c'est très important. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtissons. Car, comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Arédons, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Vous avez vu? C'était des ennemis, mais ils disent, nous venons, nous allons bâtir avec vous, nous avons le même Dieu, nous avons le même message, et tout, et tout, et tout, et tout. Et tout. Verset 3. Mais Zorobabel, Josué, et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls, à l'Éternel, comme le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le message. Vous voyez? Le diable ne nous laissera pas travailler en paix. Il cherchera par tous les moyens à nous troubler, qui, parfois, a influencé de véritables fils de Dieu pour faire des choses qui ne sont pas justes. Mais parfois, ce sont des ennemis de Juda qui viendront. Hein? Mais alors, si les ennemis de Juda viennent, voilà pourquoi nous devons rester dans les Saintes Écritures, parce que dans Tite, il est dit, parlant des anciens, au verset 9, chapitre 1, verset 9, il doit être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Pourquoi? Parce qu'en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles devinrent des discours des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Comment pouvons-nous leur fermer la bouche? Tite 2, hein? Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Verset 7, dernière partie. Et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Et c'est ce qu'il dit à Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Voilà pourquoi il est important que même quand nous parlons et que nous désirons intervenir, puissions le faire avec la parole. Les Saintes Écritures, à ce moment-là, nous sommes fondés et nous savons de quoi il est question, de quoi il s'agit. Parce que notre travail, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Parlons de la grâce qui nous a été donnée dès les temps éternels. Nous avons vu cela autrefois. Nous avions dit que nous devions arriver dans 2 Corinthiens. Prenons 2 Corinthiens. Le petit passage que je vais citer, c'est pour revenir à ce qui a été dit avant, 2 Corinthiens 2:11. Ceci a été dit afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Puisque nous n'ignorons pas les desseins de Satan, nous devons veiller à ce qu'il n'ait pas l'avantage sur nous. Maintenant, dans 2 Corinthiens 3, Paul dit ceci. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous et de votre part? Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ici, dans ce verset, nous avons le Nouveau et l'Ancien Testament. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est Christ qui a écrit la lettre. Mais par notre ministère, comme le frère, chacun de vous écrit avec un bic. Celui qui écrit, c'est Christ. Mais le bic avec lequel il écrit, c'est le ministère.
Amen.
Vous êtes une lettre écrite, une lettre de Christ, mais écrite par notre ministère. Celui qui écrit, c'est Christ. Mais non avec de l'encre. Mais avec l'Esprit du Dieu vivant.
Amen. Amen.
Amen. Non sur des tables de pierre. Parce que la première loi, la première alliance, est écrite sur des tables de pierre. Mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Vous vous souvenez, nous avions vu dans Hébreux au chapitre 8. Autrefois, nous avions vu Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici des jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle.
non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Alliance qui avait été écrite sur des tables de pierre. Les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de langue, mais avec l'esprit de Dieu, du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ, auprès de Dieu. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. C'est très important. Revenons dans Romains, notre livre bien-aimé qu'on avait lu l'autre jour, Romains 7. Verset 1 jusqu'au verset 6. Ignorez-vous, frères, nous parlons de la grâce et de la loi. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. On n'est pas un cadavre en prison. Mais les colonisateurs ont chicoté des cadavres. Regardez à quel point ils étaient insensés. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Mais quand il est mort, les hommes, quand ils ont condamné quelqu'un à mort, à contumace ou à un certain nombre d'années, s'il meurt, on le met dans la tombe et on met des chaînes autour. Mais ils sont insensés. Peut-on exercer la loi sur un mort? Non. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qu'il a liée à son mari. Mais si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. De sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Mais la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Sommes-nous vivants ou sommes-nous morts? En ce qui concerne la loi, nous avons été mis à mort par le corps de Christ. La loi exerce son pouvoir sur l'homme tant qu'il vit. Or, nous, à la loi, nous avons été mis à mort par le corps de Christ. La loi n'a plus de pouvoir sur nous. Pour que vous ne vous apparteniez, pour que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Quand nous étions dans la chair, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Et 2 Corinthiens 3, 6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, qui a vieilli là, mais de l'esprit. Nous ne sommes pas ministres de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant, regardez où c'est merveilleux. L'Ancien et le Nouveau Testament. Paul dit, d'abord au verset 6, on a vu que l'ancienne alliance est le ministère de la lettre. Et la nouvelle alliance, c'est le ministère de l'esprit. Puis va au verset 7. Oh, c'est le ministère de la mort, celui de la loi. Il l'appelle le ministère de la mort. Quand vous prêchez la loi, vous avez le ministère de la mort. Gravé avec des lettres sur des pierres, il a été glorieux, c'est vrai, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse. À cause de quoi? À cause de cette gloire qui était passagère. Combien le ministère de l'Esprit, qui est le ministère de la vie, ne sera-t-il pas plus glorieux? La loi, verset 9. Si le ministère de la condamnation, la loi, a été glorieux, la grâce, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire.
Amen.
Et sous ce rapport, mais ce qui a été glorieux, le ministère de Moïse, ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Or, que cherchait Abraham, notre père? Hébreux chapitre 11, disons. Verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vie celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Abraham et ses fils désirent ce qui demeure, qui est permanent. Une cité céleste, qui est permanente, la vie éternelle, qui demeure, l'esprit éternel, qui demeure. Tout ce que les enfants d'Abraham cherchent, c'est comme leur père, les choses qui demeurent. Les tabernacles qui demeurent. Vous connaissez ce tabernacle qui demeure? Luc chapitre 16. Dans Luc au chapitre 16. C'est ça. Il est dit, verset 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les terres éternelles. Quand elles viendront à vous manquer, il y a des tabernacles éternels. Amen. C'est ce temps, c'est cette tente céleste. 2 Corinthiens 5, 2. Aussi, nous gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Revenons alors au ministère de l'Esprit. Il est dit maintenant, dans, au verset 2, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. La loi était passagère, mais la grâce de Dieu dans le livre de Tite, nous avions lu ça autrefois, 2 Tite chapitre 11. Voilà, Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le salut n'a pas de source. Le salut n'a qu'une source, la grâce. La loi n'est pas la source du salut. C'est la grâce qui est la source du salut. Et la grâce dit que Christ est mort pour nos péchés. Romains chapitre 5. Il dit ceci. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Par la mort de Christ, l'Écriture dit dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par quoi? Par sa mort dans le corps de sa chair. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, comment sommes-nous justifiés? Verset 1er du chapitre 5, étant donc justifiés par la foi. À plus forte raison donc, verset 9, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, dans Romains 4, au verset 25, l'Écriture dit, au verset 25, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous n'avons plus rien à faire pour notre justification. C'est pour ça que Paul dit dans les Corinthiens, au chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 30, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Maintenant, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons au verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Amen.
Amen.
À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Amen. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Maintenant, à partir de ce passage, il y a une opposition formidable qui est faite entre Adam et Christ. Regardez. Il est dit au verset 14. Cependant, l'amour a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, ça c'est un, et le don de la grâce. Vous connaissez le don de la grâce?
lisons le don de la grâce. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Revenons dans Romains 5, 15 on était. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup?
Il n'est pas dit sur tous les hommes,
sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car, après une seule offense, le jugement est devenu condamnation. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul.
Amen. Amen.
Par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, alléluia, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes.
Amen.
C'est clair. Comment la justification qui donne la vie s'étend-elle à tous les hommes? Par un seul acte. De qui? De Jésus-Christ. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Bien-aimés frères, notre force, c'est l'obéissance de Jésus-Christ.
Amen.
Amen. Alors, comme nous croyons en lui, lui aussi nous rend obéissants par la foi en lui.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Vous comprenez pourquoi la loi est intervenue? C'était pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abondait, mais la grâce a surabondé.
Amen.
Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne. Avez-vous compris? Que veut dire régner? Avoir autorité totale.
Amen.
Sans discussion, sans limite. C'est infini, sans partage. C'est ça le règne de la grâce. La grâce règne comment? Par la justice, pour la vie éternelle. Comment? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Verset 14 du chapitre 6. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais écoutez, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. Donc il suffit que le cœur décide d'obéir et de croire. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Alors, ayant été affranchi du péché, parce que vous avez cru, vous êtes devenu esclave de la justice. Maintenant, au même chapitre 6, il est dit ici, en effet, verset 5, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché,
car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Cela veut dire que nous qui sommes morts avec lui, nous sommes morts au péché. Satan n'a plus de puissance. C'est pour ça que dans Romains 15, l'Écriture dit une chose merveilleuse. Est-ce bien Romains 15? C'est 1 Corinthiens, au chapitre 15. Verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon, c'est comme une seringue. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc la seringue par laquelle la mort frappe, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais nous avons été mis morts à la loi.
Amen.
Par Christ. Alors l'Écriture dit, mais grâce soit rendue à Dieu, qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire une illustration banale. La mort, on nous donne la mort par la balle. Mais la puissance de la balle, c'est lorsqu'elle est mise dans un revolver, dans une arme à feu. Vous voyez, la balle, quand elle est dans une arme à feu, elle va te donner la mort. Mais quand on retire l'arme à feu, même s'il a 50 balles, elles ne te donneront pas la mort. Il pourra la lancer, elle ne te donnera jamais la mort. Pour que les péchés puissent le tuer, il faut qu'il ait devant, avec lui, la loi. Parce que le commandement dit, tu ne voleras pas. La loi dit, si tu voles, tu seras frappé de mort. Mais quand on note la loi...
Alléluia.
Il est sans force, frère. C'est vrai, il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La mort et le péché a été ôté. Où est le péché? C'est l'incrédulité. Christ l'a ôté. Adam a désobéi. Il a été incrédule. Mais Christ, lui, a obéi. Il a cru. Ah. Mais le péché a été ôté. Par l'obéissance d'un seul, nous sommes tous rendus justes. Par sa connaissance, mon serviteur justifiera beaucoup d'hommes. Ésaïe 53. Amen. Ésaïe 53. Disons au verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Lui rassasira ses regards à cause du travail de son âme. Pas de votre âme, ni de mon travail. C'est à cause du travail que lui a fait qu'il rassasira ses regards. Et par sa connaissance, mon juste, serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. Il a pris nos iniquités. Si je veux porter la chemise de frère Emmanuel, je dois d'abord la lui ôter. Je la lui ôte. Il a porté nos douleurs. C'est-à-dire, il les a ôtés, il a pris sur lui. Il a pris nos iniquités, il les a mis sur lui. Il a pris nos péchés, il les a mis sur lui. Alors, par sa justice. Lui, il a été rendu péché pour que nous nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus-Christ? Les gens disent, frère, il faut condamner le péché. Bien-aimés frères, nous allons condamner le péché. Mais voyons comment la Bible condamne le péché. Romains chapitre 8, je crois qu'on avait déjà vu une partie, mais nous allons continuer. Romains chapitre 8. Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Chaque fois que la loi voulait condamner le péché, la chair la rendait sans force. Mais alors, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. 1 Jean, chapitre 3. Regardez comment on doit condamner la chair, le péché. Verset 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Vous voulez détruire les œuvres du diable? Montrez que Christ à Golgotha a détruit les œuvres du diable. Que s'était-il passé ce jour-là en Israël? Que s'était-il passé ce jour-là en Israël? 1 Samuel, au chapitre 17. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Deux, Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. La Bible dit, verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qu'il descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. Vous avez vu? Les deux armées étaient là. Il fallait un héros des deux côtés. Là, Goliath s'est avancé. Ici, le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Écoutez, ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Je saute vite afin que nous voyions cette grande crainte et on va revenir là. Hébreux chapitre 2, verset 15. Ainsi ils délivrent tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Avez-vous lu? Revenons dans Samuel. Oh, David était fils de cet Éphraïm de Bethléem. Tout le peuple tremblait. Maintenant, lisons, allons au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Tous les prophètes ont été vaincus. Les sacrificateurs ont été vaincus. Les juges ont été vaincus. Tous fuyaient. Chacun disait: avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Vous avez entendu l'opprobre? Galates 3. Lisons Galates 3. Afin, après, quand on va revenir, tout sera bien clair. Galates, au chapitre 3. Il est dit, au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Vous voyez? Il a pris d'abord nos péchés, il les a portés sur lui, et nous a passé sa justice. Mais par le même moyen, il a ôté la malédiction, et il a fait passer sur nous la bénédiction. Revenons là où nous étions.
Allons maintenant dire plus loin directement. Au verset 36, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Mais il lui donne sa doctrine, ses vêtements et enseignements, sa religion. Saül fit mettre sa religion à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé.
Oui.
Et il s'en débarrassa. Débarrassez-vous de toute fausse doctrine et de toute religion personnelle. Il prit en main son bâton de berger. Et il choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ésaïe 53. Il apparut comme une faible plante, comme un rejeton, semblable à celui dont on détourne la tête. On l'a méprisé, l'a rejeté. On n'a fait de lui aucun cas. C'est ça que Goliath fait. Il l'a méprisé. Il dit quoi? Le visage a dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Une brute, ce que Pierre dit. Il parle d'une manière injurieuse des gloires. Il méprise David et il le maudit par ses dieux. Il ajouta, viens vers moi. Il prophétise aussi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Faux prophète. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de Yahvé Sabaoth. Oui. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est pas moi que tu as insulté, c'est le Dieu de l'armée d'Israël. Aujourd'hui, comprenez-vous qu'aujourd'hui Dieu fixe pour nous un nouveau jour.
Amen.
Aujourd'hui c'était le jour de salut, de délivrance en ce moment-là. Mais aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Aujourd'hui, Yahvé te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Mais le fils de David, il lui a écrasé la tête.
Amen.
Et je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement, pour marcher au devant de David, lisez. David courut sur le champ de bataille. Paul nous dit dans Hébreux 12, courez dans la carrière qui nous est offerte. Ayant les regards braqués sur Jésus-Christ, il courut dans le champ à la rencontre du Philistin. Il mit à la main sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre lui. Ainsi avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa. Il lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Écoutez, les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite.
Oui.
Et les deux hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins. À Golgotha, le fils de David a rencontré Goliath. Il l'a terrassé. Il lui a écrasé la tête. Depuis ce jour-là, nous sommes à la poursuite de ces démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui a remporté la victoire? Mais c'est lui. Mais c'est nous qui ramassons les dépouilles. Alléluia.
Ça, c'est la grâce de notre Dieu. Oui. Nous, on va ramasser les dépouilles. C'est pour ça qu'il est dit dans un livre. C'est encore quel livre, je vais retrouver ça. Les frères doivent se souvenir. C'est là où Moab, Ammon et les autres étaient venus contre Israël. Ah, 1 Chronique 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, verset 1er, avec ceux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ils étaient nombreux là. On va en informer Josaphat. Tu as le sida. Une multitude nombreuse s'avance contre toi. Il se mit à trembler. Mais, comme c'était un homme de Dieu, verset 3, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle Yahvé. 1. Ne craignez point. 2. Et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et leur dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en Yahvé, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes au pluriel et vous réussirez. Les branamistes disent, en son prophète. Puis, d'accord avec le peuple, maintenant nous allons reprendre. Avant le départ, il leur donne le message qui avait été transmis en ce jour par le prophète. Il dit, mais confiez-vous en Dieu. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, marchant devant l'armée de l'Éternel, célébraient l'Éternel. Et que disait-il? Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Vous avez entendu? Ils n'ont pas célébré devant eux. Ne touche pas, ne mange pas, ne bois pas, ne triche pas. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Écoutez, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, c'est-à-dire au moment où le peuple commençait à louer et célébrer la miséricorde et la grandeur de leur Dieu, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit de les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. À Golgotha, Christ a vaincu Satan et toute son armée. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent que tout enlever. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Il y en a un qui a combattu. Nous, notre combat, c'est le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, ça ne veut pas dire tu ne fumes pas, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Non, 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 non. Le bon combat de la foi, c'est croire qu'à Golgotha, Christ t'a sauvé. Et si tu crois ça, lui-même va opérer ce changement dans ton cœur petit à petit. On dit souvent la justification, c'est Dieu qui l'a fait, mais la sanctification, vous devez travailler. Nous avions dû travailler l'autre jour. Vous vous souvenez? Nous avions dû travailler. Non, 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 non. Tout c'est lui qui l'a fait. Continuons notre lecture. Colossiens. Et puis nous allons arrêter parce que la grâce, on n'en finit jamais.
C'est une grâce éternelle. Colossiens 2. Verset. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes, sur les rudiments élémentaires du monde et non sur Christ. Vous avez vu? Il va au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a déchiré, il a éliminé en le clouant à la croix. Notre casier judiciaire était chargé et il a pris le casier judiciaire et il a déchiré. C'est ici que se trouvaient nos condamnations. L'acte qu'on avait posé où tout se trouvait, c'était ici. Et à la croix du calvaire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subissait contre nous, et il a cloué, il a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est clair. Alors que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet du fait de nouvelle lune ou du sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. Amen. La réalité, le corps est en Christ. Que personne alors, sous une apparence d'humilité. Sous une apparence d'humilité. Et par un culte des anges. Viens envoyer un prophète. On peut avoir un culte des anges célestes ou des anges terrestres.
Oui.
Ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à quoi? À ses visions. Qu'est-ce qu'il est? Enflé d'un vague orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef Christ, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures, tire l'accroissement que Dieu donne. Nous tirons l'accroissement de Christ.
Amen.
Si vous êtes mort avec Christ au rudiment élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez encore dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas, ne fais pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. Ah mais oui, quand tu entends ça, une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à quoi? Qu'à satisfaire la chair. Voilà le culte volontaire que Dieu demande. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va aller maintenant mourir? Non, il faut que ce soit un sacrifice vivant. Donc il faut d'abord que tu sois vivant. Mais pour que tu sois vivant, il faut que tu reçoives la vie.
Oui.
Mais comment reçoit-on la vie? Nicodème, le grand maître docteur d'Israël, en face du docteur de Dieu, lui a demandé, et comment pouvons-nous naître de nouveau? Prenons Jean 3. Nous reviendrons à ce passage. Jean 3. Nicodème dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère
et naître. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pas d'issue dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle d'où où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nous devons dire ce que nous savons et nous devons rendre témoignage de ce que Dieu nous a montré. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voici maintenant la réponse à la nouvelle naissance. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comment Moïse avait-il élevé le serpent dans le désert? À cause des murmures, de la transgression et des péchés, Dieu a envoyé des serpents brûlants. Donc, à cause du péché, la mort les frappait par le serpent et ils mouraient. Et le peuple a dit, Moïse prie à Dieu qu'il arrête, qu'il ôte les serpents. Moïse est allé vers Dieu, il a dit, je t'en prie, le peuple souffre beaucoup, ôte les serpents brûlants. Il dit, non, je ne peux pas ôter les serpents. Il faut que je le laisse. Et je vais même ajouter un autre serpent. Mais cette fois-ci, ce sera un serpent d'airain. Prends un serpent d'airain et élève-le sur la perche. L'airain représente le jugement. Ça veut dire, par le serpent d'airain, tu montres au peuple que ce serpent qui les morde là a déjà été jugé, condamné, détruit. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, quiconque aura été mordu par le serpent, donc il doit mourir. Ce qu'il doit faire, c'est regarder au serpent des reins. C'est tout ce qu'il devait faire. Et il ne mourra pas. Moïse leur a apporté le message divin.
Amen.
Ça, c'était la grâce. Mais qu'est-ce que les hommes ont fait? Quand le serpent le mordait, il prend un garrot, il l'attache, il dit, où est Moïse? Il commence à courir là où était Moïse. En chemin, il mourait. Les autres, quand il attache, il va chercher une chèvre, un agneau, pour faire une offrande. Il mourait. L'autre allait jeûner. Il mourait. L'autre allait prier. Il mourait. Tout ça, le prophète, les sacrificateurs, les veaux, les agneaux, la prière, les jeûnes ne sauvent pas. Il fallait regarder au serpent des reins. De même que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, alléluia, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu as péché, regarde, à la croix de Golgotha, ne va pas jeûner, ne va pas prier, ne coupe pas chez les prédicateurs, ne cherche pas où faire. Où est-ce que frère Branham a dit ça? Regarde à Golgotha. Amen. Mais quand on est sauvé, c'est alors que nous prions. C'est alors que nous jeûnons. C'est alors que nous disons, mais Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi encore connaître grâce et que je vois encore tes voies. C'est comme ça. C'est comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 6, il dit, la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils. Et pour le voir, il faut qu'il soit élevé. Et quand il est élevé, il faut qu'on vous le peigne. Et pour qu'on vous le peigne, il faut qu'il y ait des envoyés. Galates, qui vous a ensorcelé? Une prédication interprétée est un ensorcellement. Les gens, il y a des frères qui disent, il y a un sorcier qui est en train dans ma maison. Il faut dire ça en lingala, c'est mieux. Donc, il m'envoie à qui est pas Nanda Bounangaï. Mais
Yomokondoki. Par tes interprétations, tu es un doki et tu es en train de ndoké ou de coloca. Le peuple qui vient là. Les gens qui interprètent la parole, ce sont des petits sorciers. Mais c'est ça que Paul a dit. Disons Galate, c'est Paul qui dit ça. Galate 3. Oh Galate dépourvu de sens. Qui vous a ensorcelé? Vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Hein? Mais qui vous a ensorcelé? La prédication erronée est comme un ensorcellement. Revenons à Jean 6, 39. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Mais comment le verrons-nous? Il faut que quelqu'un nous le peigne. Et pour qu'on nous le peigne, les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Nous avons déjà vu ça. Voilà pourquoi ces choses sont importantes et capitales. Si autrefois nous avons été des ndoki, inclinons nos têtes et disons, Seigneur, pardonne-moi, j'avance au soleil ton peuple. Par des interprétations. Bien aimé, c'est sérieux, c'est très important. Parce que souvent, nous ne comprenons pas la manière de Dieu de faire les choses. Et par nos propres pensées, Job lui était sincère. Il a dit, j'étais celui qui obscurcissait les desseins de Dieu. Cependant, Dieu a dit, mais aucun de vous n'a parlé comme mon serviteur Job. Mais Job lui-même dit, j'étais de ceux qui obscurcissent tes desseins. J'ai parlé une fois, je ne parlerai plus. Je me tais, je m'incline, je mets mes lèvres. Je me tais. Il est préférable pour nous de ne pas parler du tout que de se tenir debout et de dire autre chose que ce que Dieu a dit. Dans cet âge, Dieu a envoyé son serviteur, un messager, notre frère Branham, dans Malachie 4. Non, je donne simplement le premier. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Dernière partie du verset 6. Et il ramènera le cœur des enfants à leur père, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Ici, il est clair que la tâche de cet Élie. Ici, il est clair que la tâche de cet Élie était de ramener la foi des pères, des enfants à leur père. Où sont vos frères? Où sont-ils? Il devait ramener le cœur des enfants à leur père. Mais ici, il est clair qu'on nous parle du retour de la parole qui avait été proclamée telle qu'elle avait été proclamée du temps de Paul. Si dans la foi des enfants doit être ramenée à celle des pères, Paul dit dans 1 Corinthiens, nous allons voir qui sont nos pères. 1 Corinthiens, chapitre. Il est dit au verset 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs maîtres, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc nous voyons que les pères apostoliques, ceux qui nous ont donné la première parole, c'était vers eux que nous devions retourner. En ce temps-là, comment la parole était-elle apportée? Verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout
dans toutes les églises.
Ce messager devait nous ramener à la foi originelle de nos pères. Or, Paul dit dans 1 Corinthiens, verset 10, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Ici, c'est très important. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est lui-même. Jean, chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Quand le fondement a été posé, il est dit, et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Mais il nous est dit dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, au sujet de la pierre de fête qui va être posée bientôt, Zacharie 4, verset 7, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Et la pierre de fête, il posera la pierre de fête au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Il nous est montré que la grâce sera prêchée de la même manière au temps de la fin qu'elle ne l'était au commencement. La véritable grâce, pas la disgrâce. Nous avons entendu quelque part un écho qui nous est arrivé par des frères qui ne comprennent pas comme il faut. Ils disent, il y a une nouvelle doctrine qui circule à Kinshasa, la grâce infinie. Bien-aimés frères, la grâce infinie n'est pas une nouvelle doctrine, c'était toute la doctrine de Jésus-Christ. Il est dit dans Éphésiens, ou bien prenons ça plutôt dans le livre de Corinthiens. Vous connaissez le passage où il dit, « Oh, comme insondable... » Oui, ça pourrait être romain aussi, mais... Tu as trouvé, merci. Oh non, Romains 11. Voilà. Romains 11 en toi. Commençons au verset 30 pour montrer cette grâce. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, voici ce que nous étions, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Dieu traite avec Israël, c'est-à-dire, je donne le cas, le frère qui est à ma gauche. Et celui-là, un païen, il est désobéissant. Et Dieu traite avec celui-ci. La Bible dit, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu. Et quand celui qui l'aime désobéit, et que par leur désobéissance, Dieu se retourne vers les païens et lui dit, je t'aime. Vous avez maintenant obtenu miséricorde. Nous n'avons pas obtenu miséricorde par ce qu'on a fait. Nous avons obtenu miséricorde à cause de la désobéissance d'Israël. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors Paul s'exclame, « Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que tes jugements sont insondables et que ses voies sont incompréhensibles. » Amen. C'est pour cela que dans Galates,
C'est pour ça que dans Galates, je voulais dire Éphésiens, il dit, verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi faire ? Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Amen. Dans Éphésiens 3, 8, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Par le message de cet homme du temps de la fin, nous sommes ramenés au même enseignement que Paul. Maintenant, dans cette période, dans cet enseignement du temps de la fin, il nous a été parlé de la première et de la dernière pluie. En fait, ce sont toutes des pluies. Prenons Jacques au chapitre 5. Il est bon que nous ayons l'expression biblique. Il est dit, Jacques 5, verset 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » C'est bien à nous que cela est adressé. « Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » La pluie reste toujours la même pluie. Même si la première et celle de la première saison tombe finement et celle de l'arrière saison tombe abondamment. Mais c'est toujours la même pluie, c'est le Saint-Esprit. Mais ce sont des saisons qui sont différentes. Dans Genèse, chapitre 8, verset 22, c'est Dieu qui parle. Il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Par ceci, nous comprenons qu'il y a de différentes saisons. Et si vous regardez dans le naturel, on ne sème pas toute semence en toute saison. Je crois que le maïs, c'est dans une saison. Les arachides, c'est dans une autre, et ainsi de suite. Ainsi, il y a une parole pour chaque saison. Comme dans le naturel, il y a une semence pour chaque saison. Et nous qui sommes arrivés au temps de la fin, nous avons une semence pour le temps de la fin. Mais la semence du temps de la fin, selon Malachi 4, c'est la même que la semence du lever du soleil. La semence du soir est la même semence que celle du matin. C'est pour ça qu'il est dit dans Zacharie au chapitre 7, au chapitre 14, veuillez m'excuser. Zacharie 7, ce sera, 14, 7, ce sera un jour unique. Au matin de ce jour, une belle lumière avait paru. C'est la prédication qui fut apportée par Jésus-Christ et Paul et les autres. Mais après, les nuages sont venus et ont obscurci le ciel. Mais au temps du soir, la lumière devait paraître.
Donc la semence du soir devait être la même semence que la semence du matin. La semence du temps de la fin devait être la même semence que celle qui était à l'église, dans l'église primitive. C'est ce que nous lisons dans Malachie 4. Je vous enverrai Élie le prophète, il ramènera la foi des enfants à celle des pères. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Pour que la foi des enfants soit la même foi que celle des pères, il faut que les enfants entendent la même prédication que les pères. Mais quand la prédication de la parole est apportée, c'est comme dans le chant, nous avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 3, où il est dit, verset 8, celui qui plante et qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes donc le champ de Dieu. Et la semence qui est semée dans ce champ, Luc 8, doit être la pure semence de la parole, la même que celle qui était au commencement. Et ce qui est très important pour nous, c'est Luc 17, 30, il est dit, si vous voyez à partir du verset 26, il en sera comme du temps de Noé, il y avait un prophète, c'était Noé, il en sera comme du temps de Lot, il y avait un prophète, c'était Abraham, 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Donc il y aura encore un prophète au temps de la fin, mais la version correcte dit, au moment où le Fils de l'homme sera révélé. C'est-à-dire, le ministère du Fils de l'homme devait à nouveau être révélé dans l'Église. Maintenant, regardez. Il a parlé ici comme du temps de Lot. Au temps de Lot, Abraham était là. Mais quel était le ministère qui fut manifesté à Abraham? Le discernement des pensées. Elohim Yahvé. Yahvé était là. Il parlait avec Abraham et dit, où est Sarah ta femme? Et après il dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Et Sarah de dire, je n'ai pas ri. Et le Seigneur de répondre, tu as ri. Là, c'est ce grand ministère du discernement des pensées qui était manifesté dans une théophanie. Quand Jésus-Christ vint sur la terre, il fit le même ministère, Jean 4, avec la femme samaritaine au puits. Mais là, ce n'était plus dans une théophanie, c'était maintenant dans un corps. Un corps. Mais ce corps était le corps semence qui portait en lui le germe de vie, Christ. Mais au temps de la fin, ce même ministère n'a pas encore été révélé dans un corps. Non, ce n'est pas vrai. Il a été révélé dans un membre du corps. L'Église qui est le corps, ce ministère est manifesté dans un membre du corps qui est l'œil. C'est pour ça que les frères qui ne comprennent pas, qui disent le Fils de l'homme, ils croient que ce ministère a été manifesté dans un corps individuel. Non, nous sommes tous membres les uns des autres, c'est-à-dire membres du corps de Christ. Regardez l'évolution. Ça, c'est le plan, les desseins de Dieu. Dieu voulait se révéler aux hommes, il voulait être sauveur, il fallait qu'il devienne homme. Et il l'a fait en Christ. Christ est la révélation du mystère de Dieu. Mais maintenant, il fallait que Christ lui-même se révèle dans plusieurs hommes et qu'il se déverse lui-même dans ces hommes afin qu'il ait l'autorité de ce corps. Et c'est là que Dieu est en train de nous conduire maintenant. Voilà pourquoi il y a eu ce ministère du temps de la fin. Parce que seul le Fils de l'homme sème la semence. Amen. Luc, Matthieu 13, lisons. Il est dit, verset 37, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Amen. Alors, quand on reçoit cette semence dans notre âme, nous devenons nous-mêmes une semence. Fils de Dieu, semence. C'est pour ça que le ministère du Fils de l'homme devait revenir au temps de la fin et être révélé dans l'Église et apporter le pur message. Ne vous attendez jamais à ce que tous ceux qui sont avec vous ou que vous croyez être ministres sont réellement appelés à croire et comprendre ces choses.
c'est un message pour l'épouse.
Amen.
Nous n'avons pas la capacité de parvenir tous là. Même si nous y arrivons tous, nous n'y arrivons pas à la même vitesse.
Oui.
Certains voient plus vite que d'autres. Ils voient beaucoup plus vite que nous aussi. Et plus loin. Mais nous parviendrons aussi là-bas. Mais d'autres n'arriveront jamais là. Frère Branham disait, nous sommes comme des pièces de monnaie dans la poche d'un homme. Celui-ci, c'est une pièce de 10 francs. L'autre, c'est une pièce de 5 francs. Nous sommes tous des pièces dans la poche de quelqu'un. Nous sommes tous des enfants de Dieu dans sa main. Mais il y en a qui sont arrivés, appelés à arriver quelque part et d'autres pas. C'est pour cela qu'on ne pousse pas. Une prédication message n'a pas besoin d'une pression spirituelle quelconque sur les hommes. Depuis que j'ai vu qu'il n'y a pas de chaleur, les prédications message n'a pas besoin de pression. Frère, vous venez tout le temps en retard dans l'assemblée. Frère, vous ne priez pas dans la semaine. Prêchez la parole. S'il y a la semence et que ce que vous donnez est la lumière, au contact de la lumière, la semence prendra vie.
Amen.
Et au milieu du travail, ils prendront à cœur le travail.
Amen. 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 Amen.
Ainsi, il fallait que cette semence revienne. Mais regardez, le Fils de l'homme lui-même en son temps, il a donné la semence et il a donné la récolte. Les semences qui étaient montées dans la chambre haute ont expérimenté une puissante effusion de l'esprit. La Bible dit dans Actes au chapitre 2. Actes chapitre 2. Quand les gens ont vu ce qui s'était passé, ils ont dit, oh, ils sont ivres, et ainsi de suite. Verset 14. Alors Pierre se présentant avec les onze, et le voit la voix, et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Si vous lisez dans l'Écriture, vous verrez que Jésus commentait la prédication par le passage qu'on lui donnait. Pierre, il a commencé la prédication par l'événement qui se passait. Il l'a regardé, il l'a situé bibliquement, et il a commencé l'évangélisation. Ça, c'est l'évangélisation de la première heure. L'évangélisation du temps de la fin est comme ça.
Amen.
Frère, moi, je suis un évangéliste. Il transpire, mais vous n'entendez rien de la parole. Ce n'est pas un évangéliste, c'est un sorcier. Il ensorcelle les gens. Oui, nous avons un sens, c'est important. Alors, il prend Joël, il dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant, nous entrons dans le monde de la parole prophétique. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous voyons ici des groupes différents. D'abord, il nous est parlé dans les derniers jours. Il s'agit des deux derniers jours avant le dernier jour qui est le dernier jour 1000 ans. Ces deux derniers jours sont appelés ailleurs en ce jour-là. C'est un jour, le jour de salut. Tantôt il est appelé l'année de grâce. Tantôt il appelle l'année favorable. Tantôt c'est le temps favorable. Tantôt ce sont les derniers jours. Ce sont les deux derniers jours que nous connaissons. Il fallait que l'Esprit de Dieu soit répandu sur qui? Et nous savons que principalement dans ces derniers jours, c'était la période pendant laquelle Dieu devait travailler avec les nations en tant qu'individu et Israël aussi en tant qu'individu. C'est pour ça qu'il commence en disant, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ici, les questions des nations. Verset 18. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, ici nous voyons qu'il est question d'Israël. Parce qu'Israël a toujours été appelé serviteur de Dieu. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Maintenant, en tant qu'église, en tant que maison de Dieu, en tant que champ, regardez qu'une grande pluie était tombée ici au commencement. Dans Joël 2, dans ce verset que nous venons de lire, il est question de la première et de la dernière, c'est-à-dire de la pluie de la première et de la pluie de l'arrière saison. Ici, la première pluie est tombée sur l'église et l'église a été rétablie. Mais quand nous regardons en rapport avec Israël, le Fils de l'homme n'avait prêché qu'aux 12 tribus. Dans Matthieu 10, il leur avait dit, allez seulement vers les brebis perdues d'Israël. Ça, c'est la récolte qu'Israël avait donnée en quelque sorte, mais qui était le commencement de l'Église du Nouveau Testament. L'Église a été établie. Et à la fin, il faudra encore qu'une même opération divine ait lieu. Maintenant, voici là où nous voulons aller. Ici, la pluie est tombée sur la semence. Regardez, quand nous lisons attentivement dans Ésaïe, il nous est parlé du temps dans lequel nous vivons et de sa prophétie, Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Bien-aimés frères, notre salut n'est pas dans l'inquiétude, notre salut n'est pas dans l'œuvre, notre salut est dans la tranquillité et le repos. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez les hommes qui aiment les œuvres? Ils ne l'ont pas voulu. C'est pour cela, vous avez dit, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul. La menace de 5, vous fuirez jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. C'est dans cet état que s'est retrouvée l'Église. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Amen. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Il jure par lui-même, ne pouvant jurer par un autre, et il déclare, oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Criez et il vous fera grâce. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Ce n'est plus n'importe qui va se déclarer prédicateur. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent.
Amen.
Nous n'avons pas le devoir d'empêcher quelqu'un de se déclarer ministre. Et nous ne discernons pas des certificats de ministère. Mais si mes yeux ne voient pas que tu m'instruises, je ferme mes oreilles. Mais nous continuerons à communier. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Marchez-y. Mais pourquoi tu entends cette voix? Regardez ce que dit Jérémie. Pour que vous entendiez cette voix, dans Jérémie au chapitre 6, l'Écriture dit, l'Écriture dit au verset 16, ainsi parle l'Éternel, il s'agit de nous, nous parlons de la parole prophétique. Placez-vous sur les chemins, plusieurs, et regardez. Vous, placez-vous les chemins. Il y a le chemin catholique, protestant, pentecôtiste, tout ce que vous voulez, credo du message, tonériste, brananiste, moukoune Elohim. Placez-vous sur tous ces chemins. Franquiste, comme on dit, groupe de prière. Vous, placez-vous sur les chemins. Placez-vous là au milieu. Placez-vous sur les chemins et regardez. C'est ce que dit l'Écriture. Placez-vous sur les chemins, regardez. Mais, demander quels sont les anciens sentiers. Ah! Demandez que l'homme qui vous répond là soit capable de retourner dans la Bible et vous montrer les anciens sentiers. Qu'il vous montre quelle est la bonne voie. Une seule. Cette voie sainte sur laquelle aucune bête féroce. Elle a été tracée que pour les élus. Jésus a dit, je suis le chemin. C'est un homme ce chemin. Quelle est la bonne voie? La Bible dit, vous entendrez derrière vous une voix qui dit, voici le chemin, marchez-y, n'hésitez pas. Si vous y marchez, bien aimé, Jérémie 6, l'Écriture dit, et vous trouverez le repos de vos âmes. Ailleurs, vous travaillez beaucoup, mais ici, vous trouvez le repos de vos âmes. Amen. Revenons dans Ésaïe 30. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite. Où vous iriez à gauche. Mais alors, quand vous comprendrez quel est le chemin, vous tiendrez pour souliers l'argent qui recouvre vos idoles. Vous avez fait vous-même des idoles. Et lors dont elles sont revêtues. Frère, nous avons fait de nos assemblées des idoles. Frère, mais dans notre assemblée, là, Dieu nous a établis sur ce petit troupeau. Il y a le troupeau de Dieu, la bergerie. Dieu n'a qu'un troupeau. Vous voulez diviser ce troupeau en combien? Et lors dont elles sont revêtues, tu en disperseras les débris comme une impureté. Toi-même, tu diras, oh, d'ici, leur dis-tu, soyons prêts à changer tout.
Amen.
Au milieu de nous. Bien-aimés frères, rasez tout ce qui n'est pas biblique. Recommencez à poser sur le vieux fondement. Amen. Si vous voulez poser, bâtir sur ce que vous avez déjà fait, le Seigneur a dit, mettons un tissu neuf à un vieux tissu. La déchirure sera plus grande. Vous avez votre vieux tissu, là, le système qui conduit votre petite assemblée, ta petite religion, ton enseignement et tout. Tu veux prendre le tissu nouveau, l'attacher là, mais la déchirure deviendra plus grande. Tu veux prendre un vieux mur et mettre de belles briques solides de Solidus. Alors que tes briques, c'est le briquetier d'à côté qui en a sorti 45 par sac. Mais ça va s'écrouler. Alors dans Jérémie, Dieu dit, vous bâtissez des murs, vous y mettez du plâtre, je les renverserai. Oui. Verset 23. Si vous faites ça, alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Si nous faisons ça, la dernière pluie viendra. Parce que la pluie va tomber sur la semence et ne fera sortir que la sorte de semence qui a été plantée dans votre champ. Il y a les semailles et la moisson. Nous comprenons que dans ce temps, Dieu a fait une œuvre glorieuse. Il a renvoyé la parole. Il y a trois types de semences qui sont semées en ce temps. Il y a la semence dénominationnelle. On la voit dans Matthieu 23. Et ailleurs. Prenons Matthieu 23, cette semence dénominationnelle. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, ils ne font pas. Que font-ils? Il lit des fardeaux pesants et le met sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les... Frère, mettons l'ordre dans l'église, frère. Frère, mettons l'ordre dans l'église, frère. Il dit, frère, mais comment vas-tu dire? Je suis ministre, moi, nous pouvons mettre l'ordre. Vous n'avez pas encore vu qu'on peut mettre l'ordre. Attention, la Bible dit, ils aiment les premières places, dans les festins et dans les synagogues. C'est ce qui a tué l'église de Kinshasa. Il y en a parmi nous ici qui étaient là dès le début, frère Nyanga et frère. David rit parce que hier je le taquine. Parce que quelqu'un avait dit ses enfants qui sont nés en désert. Mais ce sont au désert, mais ce sont eux qui sont entrés dans la terre promise. Mais alors, il y en avait quand même qui étaient en Égypte qui pourront nous raconter comment était le pot de viande. Mais ces hommes, leur combat était toujours la première place. Bien aimé, quand on recherche la première place, c'est un mauvais esprit. Quand on cherche à être vu, c'est un mauvais esprit. Ce que nous voulons, c'est que le temple du Seigneur soit rebâti. Alors, ils continuent, mais voici ce qu'ils font. Matthieu 23, 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent y entrer. Voilà ce qu'ils font. Malheur à vous, verset 15, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, pas un disciple à Christ, mais un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne deux fois plus que vous. Ça, c'est la semence dénominationnelle. Toujours plus de croyants. Toujours plus de croyants. Frère, votre assemblée est grande. Combien?
50 personnes.
Ah, seulement. Il a une semence dans sa tête. C'est d'après le nombre qu'il marche. Et il y a bien sûr la semence pentecôtiste. Matthieu 7. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça, c'est la semence. Mais à côté de ça, il y a la semence de la parole qui est venue avec Élie, le prophète. Mais beaucoup ont pris de cette semence et ils en ont fait des credos. La dernière pluie, le mont Carmel, sera la différence que Dieu va faire entre les dénominations, les credos que les gens ont fait à partir du message du temps de la fin et la parole. Mais lorsque la parole est semée, pendant la, il est dit dans Joël, c'est là que je vais. Nous sommes dans Joël. Joël 2. Verset 21. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Déjà, nous devons nous réjouir.
Amen.
À l'entente seulement de la proclamation de la promesse. Marie avait dit, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Amen. Pourtant, il n'avait pas encore vu l'enfant et il était méprisé de tous. L'Écriture continue. Terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes de champ, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Comme autrefois veut dire qu'il y eut une fois où cela s'était déjà passé. C'est pour ça que nous sommes retournés à l'enseignement du temps de Paul. Mais comme autrefois, il devra aussi envoyer la pluie de la première de l'arrière-saison. Alors les airs se rempliront de blé. Le blé, c'est la parole, hein, vous voyez. Et les cuves regorgeront de mou. Le mou, c'est le vin doux. La stimulation que donne la révélation de la parole. Hein. Et d'huile, qui est le Saint-Esprit. Je vous remplacerai, je vous restituerai, je restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelée, l'asile et le gazam. Ça veut dire, ceux qui étaient dans la première année, que vous n'avez pas pu récolter, qui étaient dans le deuxième âge, qu'on n'a pas pu récolter, dans le troisième, dans le quatrième, dans le cinquième et dans le sixième. Tout vous sera ramené dans le septième. C'est pour ça que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Car ce sera une super récolte. Bien sûr, nous faisons vite pour terminer, mais nous reviendrons là le samedi prochain. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Ah, mais pour que vous puissiez manger et vous rassasier, nous sommes le peuple. Alors, il faut que Dieu fasse quelque chose. Dans le livre de Jérémie, je crois que nous avions déjà lu ça une fois ici. On a déjà lu ça ici une fois. Jérémie, au chapitre 31, l'Écriture dit, au verset 14, commençons même, verset 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Mais que vont-ils trouver? Des ruines. Mais ils viendront et pousseront des cris de joie malgré les ruines. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, encore. Le boue, l'huile. Les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé. Ils ne seront plus dans la souffrance à cause du pain sec et des coloquintes qu'on leur donnait. Mais plutôt, les jeunes filles se réjouiront à la danse et les jeunes hommes et les vieux se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Mais écoutez, je rassasirai de graisse l'âme des sacrificateurs.
Amen.
Il faut d'abord que les sacrificateurs, les prédicateurs soient rassasiés de parole.
Amen.
Quand ils seront rassasiés de parole, et mon peuple se rassasira de mes biens.
Amen.
Pas de vos biens. Non, les sacrificateurs seront rassasiés de graisse. C'est alors que le peuple sera rassasié des biens de l'Éternel. Amen. Vous savez que quand nous prenons la prophétie, ça a souvent une double application pour Israël et pour l'Église. Mais si nous prenons ça principalement en rapport avec l'Église, vous comprenez? Alors, c'est ce que nous disions dans Joël. Vous mangerez et vous vous rassasirez. Mais comment manger? La réponse est dans Ésaïe. Comment travailler? Comment acheter? Comment manger? Comment se rassasier? C'est Ésaïe 55, on avait déjà lu ça un jour. Je dis, vous tous qui avez soif,